Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous apprendra ou vous rappellera que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part vers 1895. Bien évidemment, notre générique est une musique de film, en l'espèce celle d'un petit bijou rose signé Blake Edwards, ça s'appelle Diamant sur canapé en français, on ne sait trop pourquoi. Breakfast at Tiffany's in English, 1962. George Peppard et Audrey Hepburn sont dans les rôles principaux et Henry Mancini est à la baguette de ce Moon River qui lui valut cette année-là un Oscar. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons nous intéresser à la carrière d'un compositeur lui aussi anglo-saxon, mais qui est né en Afrique du Sud et qui a fait l'essentiel de sa carrière en Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, en Angleterre, comme vous voulez. Là, je n'ai pas d'a priori. Trevor Jones, puisque c'est son nom, est né le 23 mars 1949 en Afrique du Sud, donc, je ne sais pas exactement où, mais dans les années 60, il se rend en Grande-Bretagne, donc encore assez jeune, pour y étudier la musique à la Royal Academy of Music de Londres, et il obtient d'ailleurs à cette occasion la nationalité anglaise. Sa première collaboration au cinéma date de 1980, ça veut dire qu'il avait déjà près de 30 ans, donc pas forcément un tout jeune, mais en 1981, eh bien, il a la chance de contribuer à la partition d'un film qui rencontrera un très très gros succès, un film de John Boorman intitulé Excalibur, qui est une version assez rock'n'roll et trash et sanglante de l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde. Alors John Boorman y mêle des musiques classiques comme les fameux Carmina Burana et une partition originale signée Trevor Jones. Bon, le résultat n'est pas toujours très heureux, mais le film est un gros succès et donc contribue à, je dirais, asseoir la réputation naissante de Trevor Jones. Et on va plutôt écouter, après j'en dirai un mot, un extrait de la bande originale d'un film dont il compose la musique en 1982. Ça s'appelle Dark Crystal. Alors c'est un peu la veine d'Excalibur, c'est-à-dire une veine fantaisie inspirée de l'histoire des chevaliers et autres, la lutte du bien, du mal, de la lumière, de l'ombre, etc., etc. La particularité de Dark Crystal, signé Jim Henson, c'est que c'est un film avec des marionnettes, mais je vous en dirai plus après avoir écouté un extrait de cette bande originale, Dark Crystal dans 24 notes secondes.
Thank you.
Le symphonisme un peu sombre de Trevor Jones pour l'ouverture de Dark Crystal, un film de Jim Henson et de Frank Oz. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était un film de marionnettes. Eh bien, ai-je besoin de le préciser? Mais je crains que oui, hélas, pour les jeunes générations, Jim Henson et Frank Oz, ce sont les créateurs du Muppet Show. C'est quoi le Muppet Show? Alors là, je m'écroule si vous me dites ça. Le Muppet Show, bah, c'est tout simplement l'une des émissions les plus drôles de toute l'histoire de la télévision, avec Kermit la grenouille, Peggy la cochonne et quelques autres, avec les deux vieux dans le fond de la salle d'opéra où soi-disant se déroule le Muppet Show, c'est-à-dire le show des marionnettes qui critiquent toujours tout ce qu'ils voient. Bref, une petite merveille, un petit bijou de 25 minutes dans mon souvenir par semaine, avec à chaque fois un invité en vrai, c'est-à-dire une vraie personne, une vedette bien évidemment. Évidemment, et puis des marionnettes qui enchaînent des sketchs tous plus hilarants les uns que les autres, et avec une technique absolument magnifique, des marionnettes splendides. Eh bien, Jim Henson et Frank Oz, en 1982, fort du succès du Muppet Show, avaient décidé de conserver la technique, mais dans un genre tout à fait différent, puisque Dark Crystal est une histoire donc de fantasy. Alors évidemment, la référence est lourde, mais un peu à la façon du Seigneur des Anneaux et de tout ce genre de choses, une histoire d'ombre et de lumière, de malédiction ou autre, qui justement présente un charme tout à fait particulier de ne pas être avec des personnages humains, c'est-à-dire de pouvoir autoriser en fait toutes les variations physiques qu'on veut des personnages, et le résultat, ma foi, eh bien, il est bluffant. Alors je ne sais pas ce qu'il en est 40 ans plus tard, ce sera déjà pas mal, 40 ans plus tard, 1982, mais ma foi, à l'époque, eh bien, c'était une petite merveille qui avait été reçue comme telle. Et d'ailleurs, deux ou trois ans plus tard, on verra les mêmes s'essayer à nouveau à peu près au même exercice avec un film qui s'appelle Labyrinthe et dans lequel on voit David Bowie. Mais bon, l'exercice était beaucoup moins réussi. En tout cas pour Trevor Jones, c'était l'occasion d'une très très belle partition. Et on va enchaîner avec le dit Trevor pour écouter cette fois un extrait de la bande originale d'un film alors tout à fait différent. Un film d'Alan Parker tourné en 1987. Alors ça s'appelle Angel Heart avec un titre français peu utilisé, Aux portes de l'enfer. Le film réunit dans les principaux rôles Mickey Rourke, mais Mickey Rourke beau, ce qui veut dire que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne l'a pas vu, et Robert De Niro. Et alors là, Robert De Niro, par contre, on est un peu dans la suspicion. Le gars serait-il immortel, ou en tout cas aurait-il passé un pacte avec le diable, que justement il incarne dans le film? En tout cas, eh bien, 35 ans plus tard, il n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'on peut voir donc, de ces photos d'Angel Heart, donc un thriller fantastique avec tous les tics d'Alan Parker, alors qui ont fait la fortune de The Wall ou de quelques autres films. Dans mon souvenir, dans Angel Heart, le tout était agaçant, un peu arty, et je crains, mais je ne fais que préjuger, que cela ait terriblement, terriblement vieilli. Aux côtés de Mickey Rourke, il y avait, et de Robert De Niro, donc il y avait Lisa Bonet, dont on n'a plus jamais entendu parler après, mais bon, et Charlotte Rampling, qui est toujours là, et alors là, elle, on l'adore. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, Angel Heart, Trevor Jones, 24 notes, seconde.
Thank you. and he had a secret love. You don't need to know that, Cypher. I think secret love should stay secret.
You have any idea where I can find Johnny Favorite?
No. Maybe the cemetery. Want to hear one of his tunes?
Bon, ben voilà, c'est un peu bizarre. Je crois que c'était la voix de Mickey Rourke qui interprète. Alors là, c'est un spoiler, hein, je suis désolé, mais le personnage qu'il recherche, hein, si vous m'avez suivi, il fait un détective privé qui cherche quelqu'un et à la fin, il découvre que c'est lui. Bon, ma foi. Bon, de toute façon, vous n'allez pas le voir parce que je pense que ça a très très mal vieilli. La musique aussi, vous l'avez bien entendu, le chœur là, de poum poum, poum poum. Oui, c'est bon. Un extrait donc de la bande originale de Trevor Jones, pardon d'être aussi critique avec des musiques que j'ai moi-même choisi, d'un compositeur que j'ai moi-même choisi de mettre en valeur dans 24 notes secondes de ce jour, mais on va écouter un extrait d'une bande originale beaucoup plus intéressante pour un film qui ne l'était pas moins. Je voudrais juste indiquer que ensuite, Trevor Jones collaborera à nouveau avec Alan Parker pour un film plus satisfaisant, Mississippi Burning, tourné en 1989. On le verra aussi pour illustrer l'éclectisme de son talent à la baguette pour Arachnophobie en 1990. Alors celui-là, je l'adore. Et si vous n'aimez pas les araignées, ne le regardez pas, car après, vous ne pourrez plus jamais vous endormir. Et en 1992-1993, pour illustrer donc la large palette du gars, on le verra à la musique de Cliffhanger, avec Sylvester Stallone, un film de Rennie Harlin, mais un jour on fera une émission spéciale pour Cliffhanger, ça vaut pas moins. On le verra aussi pour Au nom du père de Jim Sheridan en 1994, avec un acteur dont j'ai oublié le nom, mais je vais le retrouver tout de suite, puisque c'est aussi celui qui joue dans Le dernier des Mohicans, puisque c'est le film dont on va écouter un extrait de la bande originale, Daniel Day-Lewis. Et oui, c'est ça, Daniel Day-Lewis, qui donc en 1992 se retrouve au générique de la énième adaptation du fameux roman de Fenimore Cooper, intitulé Le dernier des Mohicans, d'après ma petite fiche, le film de Michael Mann, puisque c'était de lui le réalisateur, était déjà en 1992 la neuvième adaptation du roman de James Fenimore Cooper, publié en 1826, la première l'ayant été au muet en 1911, si vous voulez tout savoir. Donc une histoire qui se passe quelque part dans les guerres anglo-françaises qui déchiraient à l'époque le Canada. Aux côtés de Daniel Day-Lewis, il y a Madeleine Stowe, pour laquelle j'ai toujours eu un très très fort penchant et beaucoup regretté que sa carrière ultérieure n'ait pas été à l'aune des rôles prestigieux qu'elle a tenus dans ces années 90. Et puis il y avait aussi Patrice Chéreau, metteur en scène de théâtre et d'opéra et aussi réalisateur de quelques films tout à fait splendides, bien connu, qui jouait dans ce film le général Montcalm. Et la musique de Trevor Jones a été très très remarquée. Alors il faudrait ajouter quand même que la co-responsabilité de la musique est partagée entre Trevor Jones, déjà cité, et Randy Edelman, puisqu'il y a eu des désaccords entre Michael Mann, le réalisateur, et Trevor Jones, qui a quitté le film avant même d'avoir fini son travail, mais il a quand même collaboré à la musique. Je pense que l'extrait, le très long extrait que nous allons écouter maintenant, est bien de Trevor Jones. De toute façon, ça n'a pas aucune importance, ça n'a pas beaucoup d'importance, pardonnez-moi, car là, vous allez voir, c'est quand même autre chose. Allez, on écoute ça, Le dernier des Mohicans. Trevor Jones dans 24 notes secondes. We'll be right back. Voilà un large extrait de la partition du Dernier des Mohicans, donc un film de Michael Mann tourné en 1992 avec Daniel Day-Lewis et la délicieuse Madeleine Stowe dans les rôles... Ah bah tiens, une émission sur Madeleine, ça sera bien un de ces jours. Et Madeleine Stowe donc dans les rôles principaux, alors je dois quand même rectifier puisqu'il y a eu des milliers d'appels au standard comme d'habitude. Merci à vous de votre fidélité. C'est bien à ce qui n'est pas encore les États-Unis, dans ce qui n'est pas encore les États-Unis que se passe le film quelque part au milieu du 18e siècle. Où l'on voit effectivement la lutte des Français. Ben oui, les Français, quand je pense que ça aurait pu s'appeler Nouvelle, je ne sais pas quoi, plutôt que New York, c'est quand même quelque chose. Donc les Français, d'un côté, soutenus par les Hurons, et de l'autre, les Britanniques, soutenus par les Mohicans. On va parler Mohicans, comme le titre du film l'indique. Il n'en reste pas beaucoup des Mohicans, puisque bizarrement, le héros, donc Daniel Day-Lewis, n'est pas un Mohican, puisque sinon il ne serait pas le dernier des Mohicans. C'est un autre personnage, mais je vous passe d'autant plus l'histoire qu'en fait Michael Mann et son scénariste Christopher Crowe ont pris beaucoup de liberté avec le roman original, mais ma foi c'est pas grave car par contre le film possède un beau souffle épique. Il est parfaitement soutenu par l'interprétation charismatique de Daniel Day-Lewis. C'est presque un pléonasme de le dire, enfin c'était pas évident de faire jouer un indien à Daniel Day-Lewis. Ma foi il s'en tire magnifiquement, et Michael Mann, est-il besoin de le préciser, eh bien dirige tout cela avec une sûreté d'écriture et une munificence visuelle d'autant plus étonnante qu'il nous a plutôt habitués à des paysages urbains contemporains, alors que dans ses autres films comme Heat et bien d'autres, alors que là nous sommes dans un univers tout à fait différent. On est au milieu du 18e siècle, on est dans une nature magnifiée avec des personnages en costume, etc. Mais ma foi, un grand artiste, un grand réalisateur, un grand créateur, eh bien il l'est tout le temps, partout, et donc il l'est aussi dans cette adaptation parfaitement réussie d'un film dont j'espère vous avoir convaincu qu'il faut le voir si vous avez l'occasion de le consulter sur un DVD, que sais-je, qu'il passe à la télé. Ça, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et en tout cas, donc pour Trevor Jones, avec quelques limitations, puisque du coup, eh bien, sa collaboration aurait été un peu compliquée avec le dit Michael Mann. C'est d'autant plus dommage que du coup, comme il y avait deux compositeurs, eh bien, ils n'ont pas pu concourir aux Oscars, parce que les Oscars, c'est très réglementé et tout. Donc, meilleure musique de film, c'est un compositeur, alors même que cette année-là, bon, je ne sais plus quels étaient les autres candidats en lice, mais cette année-là, la musique aurait très certainement pu obtenir un Oscar. D'ailleurs, elle obtint les Golden Globes, ce qui est un peu le, entre guillemets, un sous-Oscar décerné un peu avant, mais qui a lui aussi son mérite. Tout ça n'empêcha pas Trevor Jones de poursuivre une brillante et très variée carrière. C'est assez étonnant la façon dont le gars pouvait passer de petites comédies britanniques, sociales, comme Les Virtuoses de Mark Herman, tourné en 1997, à un film culte, en tout cas qu'il est devenu, le Dark City d'Alex Proyas, tourné en 1998. Et puis on le vit même, étonnant, enfin il y avait aussi, dans ma souvenance, beaucoup de chansons et autres, en 1999, dans Le Coup de Foudre à Notting Hill de Roger Mitchell, avec Julia Roberts et Hugh Grant qui était à la poursuite de quatre mariages et un enterrement depuis très longtemps. D'ailleurs, il l'est toujours, mais il ne l'a pas retrouvé encore, le gars. Et en plus, il vieillit. Mais en tout cas, Coup de Foudre à Notting Hill, ma foi, c'était quand même plutôt bienvenu. Et ben oui, il y avait une musique de Trevor Jones. Cela dit, ce n'est pas sur cette musique-là que nous allons nous quitter. Et oui, parce que en fait, le morceau que nous allons entendre est presque aussi long que celui du Dernier des Mohicans, voire plus, si affinité. On va se quitter. Alors, je vais quand même vous indiquer qu'après la musique qu'on va écouter, on a vu notamment Trevor Jones signer la partition de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui, sauf erreur de ma part, là encore, vous pouvez appeler le standard, et le dernier film dans lequel on voit Sean Connery en 2003. Mais avant ça, en 2002, eh bien, il avait écrit la musique d'un film qui était une sorte de gageur, l'adaptation par les frères Hughes, Albert et Alan, d'un roman graphique, From Hell, signé du génie Alan Moore et d'Eddie Campbell. Un roman graphique en 10 volumes, c'est-à-dire quelque chose d'assez conséquent et un peu difficile à résumer dans un film de 2 heures, qui racontait sa version de l'histoire ô combien filmée de Jack l'Éventreur, qui en faisait, c'est une théorie assez répandue, je dirais une sorte de complot étouffé, puisqu'il impliquait des membres de la monarchie victorienne de l'époque. Et dans le film, on voit Johnny Depp dans le rôle d'un inspecteur, eh bien, qui essaie de retrouver les traces sanglantes de de Jack l'Éventreur. Le film est très très sanglant, comme son titre l'indique. From Hell en anglais, Sortie de l'Enfer en québécois. En français, on l'avait gardé, bien sûr. Juste un petit mot pour vous dire que Johnny Depp n'était pas forcément le premier choix des réalisateurs en l'occasion. Là encore, on retrouve Daniel Day-Lewis, c'était eux qu'ils voulaient, mais bon, ça ne s'est pas fait. Il y avait même eu Sean Connery, Jude Law, Brad Pitt, quand même des acteurs assez différents, aussi bien physiquement que au point de vue des caractères. Ma foi, Johnny s'en tirait pas trop mal dans le film, qui était très esthétisant, il faut le reconnaître. Et on va écouter donc, pour conclure cette émission consacrée à Trevor Jones, un large extrait de cette partition, From Hell, mais dans 24 notes secondes. Mes frères, mes sœurs, voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.